Radio Werfesenheim entre 100 et 104 MHz.
Hier ist wieder einmal Radio Werfesenheim jetzt oben zwischen 100 und 104 MHz.
Radio Werfesenheim pour sa 85e émission.
Hier ist oben wieder einmal eine Sendung für Radio Werfesenheim. Jetzt zwischen 100 und 104 wie immer.
Hoppla, Bob, wie komm? Es ist Zeit.
Hopp, hopp, dummel dir, wenn es ist, andere wieder jetzt oben.
Radio Werte Fessenheim, RWF, Radio Werte, Radio Werte Fessenheim, l'antenne locale de Gerstein vous invite sur ses ondes, la centrale de Fessenheim émet sur d'autres ondes, ces radiations immondes, vous ne risquez rien sur 100 à 104 MHz. Gerstheim, ce n'est pas pour demain, on est là pour que ça cesse. RVF, Radio Verte, Fessenheim. RVF, Radio Verte, Fessenheim.
Auditrices et auditeurs, bonsoir. Bonsoir pour notre 85e émission. Cette émission est un peu particulière puisqu'elle est enregistrée à Gerstheim avec l'antenne locale de Gerstheim, des participants également d'Erstein, Obenheim et de Celesta. Alors, pour notre opération Radio Werfesenheim vous écoute, c'est-à-dire que tous les auditeurs peuvent nous téléphoner, nous nous adressons tout particulièrement ce soir à nos auditeurs de ce secteur, donc de la région de Gerstheim. En bref, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous prenez votre téléphone et vous appelez le 98 35 06 à Gerstheim et vous aurez au bout du fil Marie-Jeanne qui vous racontera un peu comment ça se passe à Radio Werfesenheim et puis vous, vous lui exprimerez un peu comment vous recevez les émissions, comment vous les ressentez, si vous avez des critiques à formuler, des suggestions à nous faire. Et puis si vous n'avez pas le téléphone, vous écrivez à Gilles Gay, bâtiment B, rue des Tulipes, 67150 à Gerstheim.
So, wir sind wieder einmal da jetzt oben. Und zwar in Gerstheim. Jawohl, es sind Leute da um den Tisch, haben schon gehört, wir sind nicht nur allein. Es ist aber da, wo Gitarre spielt, ein Haufen Menschen um den Tisch herum. Leute von der Lokalantenne von Gerstheim, euch von Schlettstadt, Erstein und so weiter. Und diese Woche wird speziell gesendet, für die Bevölkerung aus dem Egger. Also ihr alle, die uns hören von Gerstheim und Umgebung, telefonieren so schnell wie möglich, wenn ihr etwas zu melden habt. Im Schilges, Telefon kennt ihr jetzt, Paul, ich nehme es an. Sag es doch nochmal, im Fall, dass es gewesen ist, noch nicht besser. 98 35 06 ist das Numero. Und seine Adresse, Bâtiment B, Rue de Tulip, 87 150 Gerstheim, das wissen wir jetzt euch. Also jetzt oben, speziell, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr euch sagen, was nicht gefällt oder was man da so der Geitschen und so weiter. Melde euch bei ihm. Das Marijan ist immer froh, wenn es ein bisschen Telefon beginnt am Freitag zu oben. So, ich glaube, wir machen weiter.
Au programme ce soir, nous vous apportons cette partie que nous avions pas pu diffuser la semaine dernière sur Radio SOS Emploi. Et en deuxième partie de notre émission, c'est-à-dire les trois quarts de notre émission, seront consacrés à l'antenne locale de Gerstheim, à laquelle nous donnerons la parole.
So, es mag viele Leute sein, das habe ich schon gesagt. Ja, alle Leute wollen natürlich auch ein wenig mitreden, aber zuerst einmal ein kleines Stückchen über Longby, wissen wir, das ist im Lothringischen dort, wo sie streiken, haben sie davon gelesen und gehört. Und nachher natürlich mit der Lokalantenne von Gerstheim, der Rest von der Sendung.
Thank you. SOS Emploi.
Ici Radio SOS Emploi. Au pays des trois frontières, Longwy la colère lutte pour la vie.
J'ai marché comme un fou et la ville est en feu. Ce caillou dans mon poing me rassénère un peu. Le brasier des buildings officiels me roussit. Tandis qu'à chaque instant la fumée s'épaissit. Il souffle sur la ville un grand vent de folie. J'avais tant d'écouter les chants de la patience. Je m'étais habitué aux mots sans importance. Le soleil ce matin s'est levé sur les flammes. La ville a reconnu la révolte et la clame. Il souffle sur la ville un grand vent d'oriflamme. Il monte de partout des chansons et des rires. On valse par ici, un peu plus loin on tire. La tradition d'antan ne vaut plus une messe. La Carmagnole est reine et l'atmosphère en liesse. Il souffle sur la ville un grand vent de jeunesse. Il souffle sur la ville un grand vent de jeunesse.
16 février 1979. Partout dans le Nord et en Lorraine, une puissante mobilisation contre les plans de chômage. Vivre et travailler à Longwy, c'est plus qu'un slogan, c'est une lutte collective, consciente et décidée.
De nombreuses opérations se sont déroulées durant la nuit. Trébor, tu es venu pour nous faire le point de cette situation. Alors, peux-tu nous dire d'abord si tu as une idée de la participation des travailleurs à cette grève d'aujourd'hui?
La participation, on peut dire qu'elle est totale. Ah, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est à 100%, mais disons un bon 98% et on est tout près de la vérité.
Bien, alors, tout au long de la nuit, tu as participé aux opérations. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé cette nuit?
Cette nuit, ça a été le blocage des supermarchés. Alors, on avait monté l'opération à partir de poids lourds, et il suffisait de détourner les poids lourds pour les mettre devant les entrées des supermarchés.
Vous avez voulu bloquer les supermarchés, pourquoi ?
Ils avaient signalé qu'ils feraient l'ouverture, donc ils ne voulaient pas faire les employeurs de ces établissements ne voulant pas faire la grève, on a voulu apporter quand même un soutien aux travailleurs de ces établissements dans les difficultés qu'ils ont pour se mettre en grève.
Oui, alors cette opération s'est terminée aux alentours de quelle heure?
Disons vers 4h, 4h30, un petit peu avant l'opération barrage.
Et les issues ont été totalement bloquées?
Totalement, hein, pour les trois magasins. Hein. Puisqu'aux prises uniques, disons, on a même enlevé une barrière pour mettre un camion carrément devant l'entrée, quoi, pour bloquer tout.
Voici quelques nouvelles. Tout le secteur sidérurgique de Meurthe-et-Moselle Sud, grève suivie de 80 à 100%. Tout le secteur sidérurgique de Moselle à 95%. Occupation des grands bureaux de la SAFE, route bloquée, gare occupée. Sur notre secteur, Chières, STPL, Usine Nord, Gorcy, mouvement de grève suivi partout à 100%.
À 13h. La CFDT, qui occupait l'Union Métallurgique, s'est rendue à la Poste et occupe à présent la Poste. Toujours à 13h, La CGT a réalisé une opération coup de poing. Elle a bloqué le train de Nancy. Michel, tu as encore des informations?
Oui, maintenant on peut passer sur le secteur de Meurthe-et-Moselle Sud. Alors, de 5h du matin à 8h30, blocage des routes de Pont-à-Mousson par la CFDT. 7h à 11h, blocage des trains. De 11h à 14h, blocage de l'autoroute Nancy-Strasbourg et Nancy-Toul par les travailleurs de Pont-à-Mousson. Occupation de la NPE-CGT-CFDT et la chambre patronale est occupée également par la CGT-CFDT. Manifestation à Nancy par les travailleurs, blocage du centre-ville.
Sortez un petit intermède musical en passant la chanson du Crassier, La Colline Rouge.
Trois frontières, c'est le pays haut. Dans la vallée de la Chière, les usines des hauts fourneaux. Le méthano se met en colère, c'est le chômage, y a plus de boulot. Au pays des trois frontières, dans le pays haut. Pyramide de cendres, crassier du labeur. Je ne vais pas vous l'apprendre, de l'ouvrier, c'était la sueur. Et mes mots convertisseurs, c'est pas le prolo qui a fait son beurre, qui traîne dans la chanson. Évidemment, c'est pas le patron. Au pays des trois frontières, dans le pays haut, il y a depuis hier, l'on y regarde là-haut. C'est sur la colline rouge qui lance des SOS, c'est le syndicat qui bouge. Pays haut crie sa détresse, c'est le syndicat qui bouge. Pays haut crie sa détresse. Au pays des trois frontières, y a plus de boulot. Camarades travailleurs, t'as peut-être droit à une vie meilleure. Et les cadences infernales, le petit chef trouve ça normal, mais tu veux vivre au pays. Même si c'est pas le paradis, mais tu veux vivre au pays. Même si c'est pas le paradis, il paraît que c'est plus rentable, c'est de la faute des étrangers. Au Japon ou à l'Allemagne, il faut tout restructurer. On fout dehors l'Algérien quand on en a plus besoin. Puis c'est le tour des plus âgés à la retraite anticipée. Faut pas faire de politique, y a le malheur pour d'autres raisons. Pas de querelle de boutique, merci Bijard pour neuf maisons. Giscard Barre reste bien tranquille, les yeux fixés sur l'horizon, sur celui de l'an 2000. Ils nous prennent bien pour des cons. Sur celui de l'an 2000, ils nous prennent bien pour des cons. Au pays des trois frontières, le peuple s'est levé. Drapeau rouge pour bannière, il a fait son unité. Dans la rue 20 000 hier, demain il va continuer. Il a trouvé la manière, pays haut pour le sauver. Il a trouvé la manière, pays haut pour le sauver. Il a trouvé la manière.
À notre micro, Georges Grangier, secrétaire adjoint de la Fédération Métallurgie CFDT, responsable du secteur sidérurgie. Bonjour Georges. Bien, peux-tu nous préciser quels sont les choix industriels défendus par la CFDT?
La CFDT considère que le plan de restructuration de la sidérurgie qui a été présenté par le gouvernement est un plan financier, exclusivement financier. Le seul objectif, c'est de réaliser l'équilibre financier des sociétés sidérurgiques, j'allais dire, sans se préoccuper de trop de ce que sera la production d'acier demain, au sens d'équilibre des échanges, import, export, etc. Bien. Ce plan est donc parfaitement contestable, parfaitement inacceptable. Alors pour la CFDT, la position est la suivante. Nous estimons que le plan conduit à une sous-capacité de production, inacceptable et nous chiffrons cette sous-capacité de production à 3 millions de tonnes par an à peu près. Ça veut dire que si nous voulions, et c'est nécessaire, faire une politique de construction d'équipement collectif, nous ne pourrions le faire qu'à la condition de me foutre en l'air la balance commerciale si chère à notre Premier ministre. Bon, pour le plan de restructuration gouvernementale, c'est le problème qu'on appelle leur conversion d'industrialisation. Alors sur ce terrain-là, la CFDT pose trois exigences. La première, c'est qu'il n'y a pas de reconversion positive dans la sidérurgie, au niveau des bassins sidérurgiques, sans le maintien d'un potentiel suffisant dans la sidérurgie. La deuxième, c'est ce problème de diversification, de transformation de l'acier en aval. Et enfin, la troisième condition, c'est que pas un emploi ne doit être supprimé tant qu'un emploi correspondant en qualité et en position géographique, c'est-à-dire quantité, qualité, lieu de l'emploi, n'est pas proposé aux travailleurs à qui on prétend supprimer leur emploi aujourd'hui. Voilà en gros les trois exigences sur ce terrain-là de la CFDT. Il ne s'agit pas de combat d'arrière-garde du type des canuts s'opposant à l'introduction des métiers jacquards, je ne sais pas quoi. Il s'agit d'essayer de faire correspondre les déflations d'emplois éventuelles au niveau de la sidérurgie avec la création réelle d'emplois en prenant en compte ce que j'ai dit au préalable, c'est-à-dire cette nécessité d'une sidérurgie forte et de la transformation en aval de l'acier. Je voudrais dire un mot à ce sujet sur le débat qui existe quelquefois entre le terme de licenciement et de suppression d'emplois. Les pouvoirs publics, le patronat nous oppose au terme de licenciement le terme suppression d'emploi sous le prétexte que suppression d'emploi ça serait moins fort que licenciement. Je prétends moi que suppression d'emploi c'est plus fort que licenciement parce que un travailleur licencié peut obtenir un nouvel emploi et un travailleur licencié ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a suppression de l'emploi. Alors que suppression d'emploi, ça veut bien dire qu'il y a en fait suppression d'emploi, donc cassage d'une possibilité de travail pour un travailleur moins âgé, etc. Ce n'est pas le cas actuellement dans la sidérurgie. Il s'agit bien de suppression d'emploi massive. Ça veut donc dire que non seulement les travailleurs qui sont actuellement en activité perdent leur emploi, mais ça veut dire que cet emploi ne sera pas remplacé.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a évolution dans les rapports qu'on a avec que les organisations représentatives des travailleurs ont avec le gouvernement dans la mesure où Giraud invite ces organisations à discuter de questions économiques finalement?
Je crois qu'il y a là un phénomène effectivement important. C'est la première fois dans ce pays que les syndicats sont conviés à discuter, je dis bien discuter, pas négocier, à discuter de choix industriels qui ont été effectués. Jusque-là, les syndicats étaient réduits dans la portion congrue consistant à discuter des conséquences de choix industriels effectués dans le secret des ministères ou des bureaux patronaux. C'est la première fois que les organisations syndicales sont conviées à discuter de choix industriels. Le problème est de vérifier maintenant si, avec leur rapport de force, nous arrivons véritablement à négocier.
Bien, tu penses que ce rapport de force que nous créons actuellement, que les travailleurs créent, risque d'être décisif finalement pour la suite des négociations qui risquent de s'ouvrir, donc tu viens d'en parler. Finalement, est-ce que tu penses que le combat doit encore durer, risque de se prolonger pour qu'on arrive finalement à aboutir sur des résultats satisfaisants?
Le combat doit durer, doit s'élargir, doit s'amplifier, parce que ce qui est obtenu actuellement au niveau des pouvoirs publics ou au niveau de la communauté européenne, ce qui est obtenu, c'est un engagement de discuter, pouvant conduire, c'est vraiment conditionnel, à une certaine remise en cause de choix industriels. Il est évident que si Boulin a reçu des organisations syndicales, si Davignon au niveau européen en a fait de même cette semaine, si Giraud va les recevoir la semaine prochaine, ce n'est pas par bonne volonté d'un pouvoir politique se rendant compte subitement que les syndicats existent, mais c'est bien grâce à l'action menée par les travailleurs de la sidérurgie. Cette action a donc déjà permis que se tiennent ces réunions. Elle doit se développer, s'amplifier, se poursuivre pour faire que ces discussions débouchent sur des résultats concrets, qui ne soient pas seulement la pré-retraite à 55 ans, importante certes, mais qui ne règle pas, au fond, le problème de l'emploi dans les bassins particulièrement touchés, comme ceux de Longwy, de Denain, d'Agondange, et bien d'autres encore.
Fond de la vallée, une clame d'or s'élève et s'amplifie. C'est l'ennui qui veut vivre, des agonies, l'exode et le chômage. Un jour c'était l'été et le soleil brillait, la cité sommeillait. Ils étaient déjà 2 ou 3 000 chômeurs regardant l'horizon. La déstructuration et puis la conjoncture, il paraît que ce sont elles qui ferment les usines par le gouvernement et abandonnent la conjoncture. Sera rude, les nouvelles sont mauvaises, sûr qu'on disparaîtra si on ne se défend pas, car l'hiver est sournois, partout des feux s'allument. Même si là-haut on croit que les Lorrains sont froids, en tout cas ils verront qu'on a la tête dure. Qu'on a la tête dure. Du fond de la vallée, une clameur s'élève et s'amplifie. C'est l'homme qui veut vivre.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est un petit village alsacien. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et ma frangine. Mon père s'en va reprendre le turbin. On a tous plus ou moins bonne mine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en fait d'être né.
Ce soir, avec nous à Gerstheim, la filature de Célestat qui nous fera le point sur ses problèmes et les problèmes dans la région de Célestat. Nous vous présenterons la position également de l'APP de Gerstheim, position prise au sujet du poste d'interconnexion de Marlenheim. Enfin, nous vous présenterons une analyse d'un questionnaire présenté par le COTSEG à une majeure partie de personnes qui occupaient le site il y a 2 ans.
Mais la grande ville, c'est bien joli, seulement du haut d'une HLM. 3 pièces cuisine dans le béton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. matin faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi solliciter bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère elle était toute paumée sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir essayer donc sans fric de remplir vos lardons. J'en suis encore à me demander après tant et tant d'années à quoi ça sert de vivre et tout. À quoi ça sert en fait d'aimer.
Bien, Roland, je te remercie pour cette chanson. Et maintenant, on va donc écouter Guy, qui va nous présenter donc les problèmes actuels de la filature de Célestat.
Bien, la filature de Célestat, nous sommes entrés dans le sixième mois d'occupation. Toujours pas de solution, à part celle qui était avancée depuis déjà pas mal de temps, la solution Bigard, une entreprise d'ameublement de la région de Célestat qui voudrait nous reprendre, mais seulement pour créer qu'une trentaine d'emplois. Donc là-dessus, notre avis était clair, c'était non. Mais de toute façon, il y a quelques jours de ça, une dernière action a eu lieu. Ça a été de remettre en branle un petit peu le Conseil Général pour avoir une réunion avec la Commission de l'économie et de l'emploi. Première réunion qui devait avoir lieu à Strasbourg et où nous n'avons pas été invités. Par contre, une deuxième réunion a eu lieu à Célestat. Une réunion décentralisée, et non pas pour traiter le problème simplement de la filature, mais le problème de Remington, Menzer et Labonal. À cette réunion assistaient Kaus, le sénateur maire de Bichwiller, différents conseillers généraux, sous-préfets, Adira, des membres de la NPE, et là, on a regretté l'absence donc du maire, et un conseiller municipal à représenter donc la ville de Célestat pendant juste à peine une demi-heure. Bien sûr, des solutions après cette réunion de la commission, il n'y en avait pas. Et il n'était pas venu, nous l'avait précisé au départ, donc qu'il n'était pas venu pour nous apporter deux solutions. Bien sûr, là aussi, les sections syndicales n'attendent aucun miracle de cette réunion. Mais il a quand même été décidé que une nouvelle réunion aura lieu au mois d'avril où d'autres, enfin où les problèmes seront peut-être plus clairs, plus précis, et là peut-être il y aura des solutions envisagées. Ce que nous demandons, c'est que des dispositions gouvernementales du type Lorraine sont mises en place, donc à savoir maintien des indemnisations à 90% durant un an, pré-retraite à 55 ans, etc. Donc ces dispositions soient accordées aux travailleurs du secteur Bainfeld de Célestat. Que le dossier constitué par la commission soit communiqué aux représentants des travailleurs et que la réunion, donc, qui doit se passer au mois d'avril, ait bien lieu. D'autre part, une lettre a été adressée par les différentes sections syndicales qui étaient présentes à cette réunion au ministre du Travail, M. Boulin, pour lui exposer donc nos problèmes, mais à un niveau peut-être supérieur.
So, ich glaube, wir möchten nur noch mal schnell dran mahnen, dass wir jetzt so eine Spezialsendung wenn ich habe, auf Gerstheim mit der Lokalantenne. Wenn es euch gefällt, wenn ihr etwas dazu sagen habt, vergesst nicht zu telefonieren, 98 35 06. Bis jetzt ist gerade worden von der Filatur von Schlettstadt und der Jean-Louis wird uns ein wenig erzählen, was dort momentan los ist.
Es ist jetzt 6 Monate, wo wir okkupieren. Und ich muss sagen, bis jetzt ist keine Solution festgehalten. Eine Solution ist im Laufen, und das wissen wir schon alle, ist die Solution von Bigard. Aber da sage ich mir nein, und ich sage es nochmal, wo wir es mir nein sagen, für 30 Personen einstellen, das geht nicht, was wir wollen, schaut auf dem Platz und was alle Arbeit bekommen. Das letzte haben wir eine Versammlung gehabt, im Conseil General. Und da muss ich sagen, da rekrutieren wir schwer, als unsere Herr Meier von Schlettstadt nicht dabei ist gesehen. Und der Deputé Klein auch nicht. Da war einer von der, vom Gemeinderat dabei gewesen. Und leider Gott ist da eine halbe Stunde geblieben. Ich weiß, es hat Angst gehabt, ob es schwer geht oder Auf jeden Fall ist Reue ab. Und ich muss sagen, es ist traurig, dass wenn man so sieht, das ist nicht normal. Jetzt, Chaos hat nichts eigenes. Promesse macht er keine. Und das wissen wir auch. Und Mirakel macht er auch keine. Und wir warten kein Mirakel von dem, aber wir hoffen das Beste. In der ersten Versammlung in Strasbourg sind wir nicht eingeladen gewesen. Und zweite Versammlung, eben die, ist in Schlettstadt gewesen. Und da muss man sagen, ist, die Menser ist repräsentiert gewesen, Bonal, Remington. Und auch jeder hat sein Wort gesagt, was alles, was nicht geht und so weiter.
Pour parfaire mon éducation, y'a la communale en béton. Là on fait de la pédagogie, devant 60 mômes en furie. En fait de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. En fait c'était y'a 25 ans, aujourd'hui c'était différent. À 15 ans fini la belle vie, t'es plus un monde, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter deux pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'aimer.
Bon, comme Guy nous l'a dit tout à l'heure, la situation sur Célestat et en particulier pour la filature, c'est pas drôle. Mais ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'il n'y a pas que la filature qui est dans le coup et que de plus en plus maintenant sur le secteur, il y a d'autres boîtes qui sont dans le cirque. On a parlé de Remington tout à l'heure, c'est 430 licenciements à la fin février. C'est une cinquantaine de licenciements aussi chez la Bonal à Dambach. Et c'est une mise sous contrôle judiciaire après déjà 46 licenciements chez Menzer Frères. Et toujours là, sans enfoncer de couteau dans la plaie, si ce n'était que ça, ça pourrait pas encore aller. Mais c'est deux autres entreprises qui ont fermé complètement leurs portes en février. Et Menzer ne suffit pas, c'est Maison Claire de Benfeld, c'est Kiwi Frère de Célestat, Plaquette de Markolsheim licencie également, l'Étoile Franc, on commence à parler d'un chômage partiel. Les seules entreprises qui sont à peu près à la hauteur sur Célestat sont vraiment pas roses non plus, puisqu'elles ne créent aucun emploi. Elles arrivent à ne pas licencier, purement et simplement, en ne réalisant aucun remplacement des départs volontaires. C'est une drôle de manière de créer des emplois. Alors nous, en tant qu'union locale CFDT sur Célestat, on est atterré parce qu'on ne voit pas du tout de solution et de débouché si l'ensemble des pouvoirs publics et des élus locaux ne bougent pas. Il ne faut pas trouver de solution parcellaire au problème, dans la mesure où on a fait une analyse également de ce qui se passe dans les secteurs nationalisés et publics sur Célestat. Bon, c'est la même chose, là aussi. Tous les jeunes qui sortent de Célestat se trouvent devant vraiment une impasse. À l'hôpital de Célestat, on a, à cause du soi-disant déficit de la sécurité sociale, fermé déjà plusieurs services. Et puis les services qui continuent à fonctionner sur Célestat souffrent d'un manque énorme d'emplois. Dans les écoles, le grand problème actuellement, c'est tous les services annexes, les cantines scolaires, où les femmes de service subissent un travail vraiment à outrance. Et rien que sur les deux établissements de Célestat, on n'arrive plus à tenir le coup. C'est les crises de nerfs, c'est les cadences qui entraînent des congés de maladie non remplacés, bien entendu. Alors,
On a parlé tout à l'heure de la réunion avec le Conseil Général. Et bien sûr, des solutions miracles, surtout dans les périodes électorales comme celle des cantonales qui a lieu en ce moment. Faut pas s'y attendre. Mais ce qui est d'autant plus grave pour nous, au niveau de Sélestat, c'est que l'ensemble de tout ce qui fait l'avenir, en fait, d'un secteur, et en particulier, par exemple, toute la politique scolaire et de formation professionnelle qui est délivrée dans le secteur de Sélestat, à terme, mène à la mort pure et simple, en fait, de toutes les activités industrielles et commerciales sur Sélestat. Sur les chiffres qu'on a obtenus pour les orientations en fin de troisième, en juin 78, on a constaté qu'il y a plus de 90% des élèves qui sont obligés de quitter Sélestat et son secteur pour aller se former. Mais plus grave, et la venue récente de certains ministres à Strasbourg le confirme, c'est qu'on a l'impression que sur Sélestat, on privilégie une formation en rabais, c'est-à-dire la formation à l'apprentissage. Il ne faut pas s'en étonner que les patrons enfin réclament ce type de formation, puisque les pactes de l'emploi bar en fait font de cette main-d'œuvre une main-d'œuvre carrément gratuite pour le patronat.
Résumé du chapitre précédent. Le héros travaille à l'usine. Ça l'emmerde. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Dans un groupe, je fais de la musique, cheveux gominés et boîte de nuit. Au son des guitares électriques, j'entends Cochrane, Buddy Holly. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'été.
Mais pendant l'usine aussi, il y a moyen d'aller pêcher, ou plutôt en dehors des heures de travail, on peut quand même aller pêcher. Et pourtant, les pêcheurs, apparemment, ont l'air de penser à d'autres problèmes que la pêche et arrivent même à prendre position sur le poste d'interconnexion de Marlenheim.
Oui, en effet, je suis allé trouver M. Hauser, qui est président de l'association de pêche à Gerstheim. Et il m'a fait part d'une motion qui a été votée lors de la dernière Assemblée Générale des Pêcheurs en janvier. Une motion qui prend clairement position contre le poste d'interconnexion de Marlenheim, parce que les pêcheurs se rendent bien compte que justement ce poste est une des pièces maîtresses de l'industrie nucléaire en Alsace. Donc par conséquent, c'est une suite logique de Gerstheim. Et donc cette motion résume bien en fait donc toutes les préoccupations des pêcheurs. Et à cet effet, on va écouter ce que pense donc l'APP sur ce problème.
Il y a 2 ans, débutait à Gerstheim l'occupation du site nucléaire d'Erstein-Gerstheim. Ces derniers temps, Gerstheim redevenait d'actualité par l'intermédiaire du poste d'interconnexion de Marlenheim. À cet effet, l'association de pêche de Gerstheim, qui s'était déjà prononcée contre toute nouvelle implantation de centrales nucléaires dans la plaine d'Alsace et du Rhin, a rédigé une nouvelle motion lors de sa dernière assemblée générale. Pouvez-vous nous la présenter et nous en donner les raisons?
L'association de pêche et de pisciculture de Gerstheim est toujours très sensibilisée à son environnement, l'eau, l'air. Et avec eux, tous les pêcheurs d'Alsace, du Bas-Rhin, ne sont-ils pas à l'origine de l'agence du bassin Rhin-Meuse et tout ce qui concerne la pollution due aux usines? La Fédération du Bas-Rhin, elle, quant à elle, elle résout quelques 20 à 30 cas de pollution chaque année. Les pêcheurs du Bas-Rhin, et parmi lesquels ceux de la région de Marlenheim, ont occupé par solidarité le site nucléaire avec les pêcheurs de Gerstheim. Il y a 2 ans de cela, les pêcheurs de Gerstheim avaient déjà produit une première motion allant contre l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire à Gerstheim et dans la région Alsace. Cette motion était passée par le canal des pêcheurs de la régionale, une association forte de quelque 30 000 membres, et par le canal de la Fédération qui réunit 70 000 membres dans le Bas-Rhin. Cette motion, elle a été la nouvelle motion a été communiquée au Conseil général. Elle renferme un peu les idées suivantes. Tout d'abord, se porter contre le poste d'interconnexion de Marlenheim. Ensuite, contre également toute nouvelle implantation dans la centrale nucléaire dans la région Alsace. Ensuite, se déclarer solidaire avec le comité qui s'est réuni autour du conseil municipal de Marlenheim. Donc notre motion a été communiquée la veille de la réunion du conseil général. Et ce conseil général du Bas-Rhin a répondu favorablement à la motion de Gerstheim et à celle émise par d'autres associations écologiques. La motion également a été communiquée au conseil municipal de Gerstheim, qui, ce dernier, n'a pas jugé utile d'en donner suite. Le conseil municipal de Gerstheim, il est bon de le rappeler, est contre le projet de nouvelle implantation de centrales nucléaires. Mais ce qui touche Marlenheim, on n'a pas jugé utile d'en donner suite. La motion sera présentée prochainement à la régionale des pêcheurs et à la fédération des pêcheurs. Et à ce niveau-là, le climat est plus favorable. Sûrement, il y aura un avis favorable de la part de ces deux associations et qui donneront satisfaction aux pêcheurs du Bas-Rhin et à la population du Bas-Rhin.
Bien, après ceci, on peut quand même s'étonner de la prise de position du conseil municipal de Gerstheim, car en fait, il s'agit bien là d'une prise de position. En refusant de voter une motion contre le poste d'interconnexion de Marlenheim, je considère que le conseil municipal de Gerstheim, dans sa presque totalité, approuve ce projet en prétextant que le moment n'est pas opportun. On peut du reste se demander quand cela sera opportun. Car l'occupation de Gerstheim était déjà mal vue à cet égard par les mêmes personnes. Il me paraît évident que Marlenheim est le maillon nécessaire après la centrale nucléaire de Gerstheim, qui est refusée par la majorité des habitants de Gerstheim et des environs et de la plaine du Rhin dans sa presque totalité. Sans poste à Marlenheim, il n'y a pas de centrale à Gerstheim et vice-versa. Dire que Marlenheim ne concerne pas le conseil municipal de Gerstheim n'est pas très honnête, à mon avis. Et surtout lorsqu'on sait qu'au moment des élections municipales, pour essayer de ramasser quelques voix, ces derniers s'étaient nettement prononcés contre tout projet de centrale nucléaire.
Je me retrouve à la communale. Mais sur l'estrade comme remplaçant, sur le tableau noir faut que je déballe ma belle science de bien-pensant. Pas le temps de se remettre en question, le programme faudra se le boucler. Sinon fais gaffe à l'inspection, ta note on pourrait te la sucrer. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en fait.
Il y a deux mois, au cours du mois de janvier, le CODSEC, les membres du CODSEC ont envoyé un questionnaire aux différents signataires du serment de Gerstheim du 24 août 1977. Ce questionnaire a été envoyé environ en double exemplaire à 340 adresses distinctes, c'est-à-dire des familles dont un membre au moins avait signé le serment de Gerstheim. On peut donc estimé en tenant compte des conjoints ou des enfants adultes que ce questionnaire, cette enquête, a touché entre environ 400 à 700 personnes. Nous avons reçu au total 130 réponses, dont 110 signées et localisées par une adresse. Plus précisément, 86 réponses provenaient d'un rayon inférieur à 20 km de Gerstheim et 44 réponses provenant de villes plus importantes comme Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse et Saverne aussi. Les principaux thèmes de ce questionnaire étaient les suivants. L'éventualité du site futur de Gerstheim, le soutien des élus locaux et leurs moyens face au pouvoir central, et puis aussi dans le cas d'une nouvelle alerte à Gerstheim, quels seraient les moyens d'action envisagés? Est-ce que ce serait encore une occupation ou des manifestations ou peut-être même des actions plus fermes? Autre question, c'est au sujet de la panne d'électricité du 19 décembre, si elle a été accidentelle ou si c'est un coup monté. Une question concernant la participation des mouvements écologiques aux élections. Est-ce qu'elle est efficace pour l'information, pour l'action? Et enfin, des questions concernant Marlenheim et aussi le problème de ville. Suite à ce questionnaire, nous avons fait une sorte d'analyse qui est aussi plutôt un thème de débat et qui contient même quelques propositions. En fait, le mouvement antinucléaire, le mouvement écologique en Alsace comme partout ailleurs, a depuis quelque temps subi quelques revers, disons, depuis Malville, depuis les élections également, et a besoin de se redéfinir, je pense, un peu plus précisément. Ce qui a justement caractérisé ce mouvement antinucléaire en Alsace, comme partout ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur les affiches, sur les murs. C'est-à-dire, ce sont les slogans classiques, peur, risque, menace vitale, survie de la planète, point de non-retour, société nucléaire égale société policière, plutonium bombe. On peut se demander pourquoi ne parle-t-on jamais, au sein des mouvements antinucléaires, ou presque pas, de misère et de chômage. Pourquoi ne parle-t-on pas du nucléaire comme expression la plus violente d'un État, pouvoir central absolu? Bien sûr, la rupture avec les valeurs de la société industrielle a toujours été au cœur des préoccupations écologiques. On critique la surconsommation, le gaspillage, on rejette l'idée de bonheur liée à l'augmentation de la production, on critique la technique qui produit plus de nuisances que de bienfaits. On rejette aussi le productivisme qui creuse les inégalités sociales et détruit l'harmonie avec la nature. Et enfin, on estime que la science n'est même plus capable de résoudre tous les problèmes, en ce qui concerne le retraitement, surtout et le stockage des déchets, qui n'est pas maîtrisé. Alors, à travers cette critique de la société du plutonium, peut-on enfin définir vraiment notre adversaire? Est-ce que c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, ou EDF? Pour EDF, progrès, bien-être égale augmentation de la production d'électricité. Et technologie nucléaire égale contrôle policier, répression, donc atteinte à la démocratie, à la liberté. Mais en fait, on peut penser qu'EDF et le CEA, qui sont des blocs secrets, totalitaires, ne sont en réalité que l'image d'un État. La lutte antinucléaire ne peut se réduire à une lutte contre la technocratie. C'est vers l'État qu'il faut se tourner. État pouvoir absolu, État tout-puissant, État en crise. L'État nous impose le nucléaire, sans débat démocratique. L'État nous impose le nucléaire avec l'aide des technocrates et des CRS. L'État nous impose le nucléaire au nom de la rentabilité. L'État, enfin, nous impose le nucléaire en soumettant l'ensemble des travailleurs à des intérêts privés. C'est donc, effectivement, l'État le véritable adversaire. Et le nucléaire, son expression la plus violente, porte en lui tout ce que nous rejetons, le centralisme et l'absence de démocratie.
Le service militaire en fait, il y a 36 trucs pour s'en passer. Le morceau de sucre pour le diabète, c'est bien connu, c'est périmé. Pipi, au lit, caca, dodo, tout ce qui s'ensuit est même dingo. En ce qui me concerne, j'ai ma recette. À 20 ans, j'avais deux marmots. Comme disait si bien mon grand-père, j'étais pas né de la dernière pluie, qu'avait passé deux ou trois guerres, les doigts dans le nez, fleurs au fusil. Faites donc l'amour, mais pas la guerre. Mais 68, 5 ans plus tard, je me retrouve avec mes deux moutards. La poussette remplie de pavés, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi
ça sert de livrer tout? À quoi ça sert en répété?
Deux ans après l'occupation du terrain de Gerstheim qui a abouti au démontage du pylône météorologique par EDF, les habitants de cette région se posent un certain nombre de questions sur ce qu'il en reste de cette lutte. Surtout que l'État semble être décidé d'accélérer le programme électronucléaire français. Et Roland a fait une analyse assez longue et assez fouiller sur ce qu'il ressent en ce qui concerne la situation actuelle, et en particulier pour, à propos du discours écologique et la critique de l'État qu'il trouve actuellement trop flou et sans base sociale très précise. D'ailleurs, pour lui, il a l'impression qu'on ne veut pas parler de catégorie sociale, on parle beaucoup d'écologie, tout le monde en parle un petit peu, que ça soit à gauche, à droite, en Alsace, et surtout au centre, et c'est là qui mène une certaine critique de tout le mouvement écologique qui s'est mis en branle depuis 2 ou 3 ans en Alsace. Il en arrive à la conclusion que ce mouvement est au bord de l'éclatement, que les associations se multiplient au lieu de converger, et que les actions ne s'intègrent pas dans une lutte générale, mais au contraire dans une lutte marginale et purement défensive. Par contre, ce qu'il trouverait très intéressant et très important, c'est qu'il y a une convergence avec d'autres partenaires sociaux. Pour lui, l'avenir de la lutte antinucléaire dépend de l'issue de ce débat. C'est dans cette optique que l'antenne locale de Gerstheim a d'ailleurs invité les membres de la filature de Célesta pour qu'il y ait un échange entre les différentes luttes qui se mènent ou qui se sont menées. Du point de vue des travailleurs comme du point de vue des écologistes.
Also ist darum gegangen, was in Gerstheim los ist. Und zwar hat kurz gesagt, das sind die Leute, die Salamuts besetzt haben, haben ein Questionnaire, ein Fragebogen in den Leuten geschickt, die Salamuts mitgemacht haben. Da haben sie zum Beispiel gefragt, ob die Leute denken, ob EDF immer noch in Gerstheim etwas will machen. Ob die Gewählte vom Ort, die da mitmachen, wenn da wieder einmal ein Kampf losgeht. Ob die Leute auch da mitmachen, natürlich, weil die Gewählte allein nicht alles können machen. Ob die Ökologisten sollen mitmachen an der Wahl, ob das überhaupt gescheit ist. Und so weiter und so weiter. Und da hat uns der Roland, den wir jetzt gerade hören singen, da singt viel jetzt oben und ziemlich nett, das ist einmal etwas anderes. Da hat uns da ein wenig gesagt, was er davon hält. Ich glaube, Christian, du hast das gut gehört. Und wirst du uns ein wenig etwas sagen darüber?
Was uns der Roland hier gesagt hat, ist vielleicht ein bisschen lang für Traduktieren. Aber in 2 Wörtern hat er uns expliziert aus Ökologistenbewegungen und die Arbeiterbewegungen eine große Differenz mittlerweile ist und was wir vielleicht noch nicht aus angekommen sind. Das heisst, aus Ökologisten mit den Arbeitern miteinander kämpfen können.
Der Roland hat uns eine Personalanalyse gegeben, wo nicht ganz sagen wir, die Antwort ist an die verschiedenen Fragen, die gestellt worden sind in dem Fragebogen vom GOZEC. Aber in dieser Analyse hat er ziemlich klargestellt, dass für ihn persönlich die Bewegung, also von den Ökologisten, zwischen der Bewegung der Ökologisten und der Bewegung der Arbeiter ein ziemlich großer Graben ist. Und das ist für ihn ein großes Problem. Zum Beispiel sagt er, dass die Bewegung oder sagen wir, der Kampf der Atomkraftwerkgegner nicht nur ein Kampf gegen die Technokratie, aber das muss oder sollte, wenn möglich, ein Kampf gegen den Staat. Der große Staat, der uns wo sehr zentralisiert ist und wo uns alles tut, wo alles durchtragen und uns alles tut, sagen wir, imposieren, sagt man. Nein, der Staat, für den Staat haben wir die Atomenergie ohne demokratische Debatte. Mit dem Staat haben wir die Atomenergie mit Technokratzer, sagt man, mit der CRS, mit der Polizei. Die Bevölkerung hat überhaupt sein Wort nicht sagen. In dem Staat redet man von Rentabilität, aber nie, was die Bevölkerung überhaupt braucht. Und in dem Ganzen fragt man nie, was die Arbeiter davon halten und alles geht über die privaten Interessen. Das ist im Großen und Ganzen die Analyse von Roland. Ich glaube, es ist nicht ganz die Meinung von allen, die da mitgemacht haben. Darum geben wir noch einmal das Wort im Roland, dass er sich ein bisschen besser ausdrücken darüber.
Effectivement, c'est une analyse personnelle, mais en fait, pour le CODSEC, lorsqu'on a envoyé ce questionnaire, il s'agissait en fait de savoir si les actions qu'on a menées il y a 2 ans et pendant toute l'occupation et depuis 2-3 ans, est-ce que ces actions demeurent encore valables aujourd'hui ? Alors, c'est dans ce sens qu'on avait bien posé nos questions et qu'on voulait essayer de recenser en somme les formes d'actions qu'il était possible encore de faire. Ces formes d'action, les répondants, nous les ont formulées et on peut les résumer en 4 types d'actions, c'est-à-dire l'action exemplaire, exemple réouvrir des petites centrales fermées par EDF, construire d'autres sur le plan national, ou éteindre même les appareils électriques et les lumières pendant un certain nombre de temps, tous les soirs à la même heure. J'appelle ça une action exemplaire, il y en a d'autres. Autre forme d'action que nous proposait, c'était la critique démocratique, c'est-à-dire adresser par exemple le questionnaire aux élus et publier leurs réponses, ou bien obtenir des motions antinucléaires de la part des nouveaux candidats au cantonal, ou encore harceler les élus et exiger le dialogue avec eux. Ça aussi, c'est une forme d'action qui, à mon avis, peut être critiquable aujourd'hui, qui est peut-être plus assez efficace, surtout quand on verra les pourcentages obtenu en ce qui concerne l'efficacité justement de ces élus locaux. Autre forme d'action qui a été proposée dans les suggestions des répondants, c'est le blocage des routes, les occupations des locaux administratifs, des fêtes même sur le terrain de Gerstheim, ou alors des marches à travers les villages concernés par les lignes THT. C'est donc des actions de défense locale, bien précises, bien localisées. Et la dernière forme d'action, c'est les élections. Là, les élections, ça a été même le pourcentage obtenu est favorable à la participation des élections, des candidats écologistes aux élections. Mais il y a quand même certaines critiques qui sont formulées. Par exemple, on critique la dissémination des mouvements écologistes aux élections. Un manque de cohésion, donc.
Roland, tu dis que le témoignage ne remplacera jamais la lutte politique et sociale. Mais alors... Que peut faire, par exemple, un écologiste ou une famille qui veut vivre autrement, qui n'est pas obligée, qui se sent impuissante face au pouvoir public, face à toute la société qui l'entoure?
En fait, ce n'est pas l'action exemplaire que je critique directement, ni l'individu. Au contraire, tous les individus qui pratiquent ce genre d'expérience de nourriture macrobiotique, de jardinage, etc., c'est tout à fait louable ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le mouvement antinucléaire, le mouvement écologique en général, tend à s'amenuiser de plus en plus. Alors, et l'action exemplaire est quelque chose de parallèle, qui ne fait pas grandir le mouvement écologique. Il en perd de vitesse, ça c'est une chose évidente. Cette action exemplaire peut venir renforcer le mouvement, mais ne peut pas être la seule action possible, et la seule action qu'on puisse opposer à quelque chose d'aussi énorme qu'est l'État et sa toute puissance.
Oui, mais si ce genre d'expérience se répétait à un échelon beaucoup plus grand, et par exemple si des villages entiers dans une région décidaient de vivre différemment, il faudrait bien, ce serait une expérience et ce serait un exemple. Mais si, bon, et au-delà de la région, si ça s'étendait encore plus, il faudrait bien qu'il y ait un changement en face.
Effectivement, mais cette action exemplaire, tout le monde sait ici qu'il est très difficile qu'elle fasse tache d'huile. Les gens, comme je l'ai dit, sont plus ou moins hostiles. Les travailleurs aussi. Ils nous marginalisent, ils considèrent ça comme quelque chose d'un peu folklorique presque. Et à la limite, ça devient très dangereux parce que le mouvement écologique, à mon avis, risque de devenir un mouvement, hein, presque comme le mouvement hippie ou comme un mouvement même punk, j'en sais rien, mais un mouvement complètement parallèle qui n'a pas d'écho auprès de la grande masse.
Bon, on a des travailleurs parmi nous, alors on va leur demander ce qu'ils pensent effectivement de ces écolos qui vivent en marginalité.
Oui.
disant que c'est une action exemplaire. Je crois qu'actuellement, on ressent une réponse sur les mêmes problèmes qui sont posés. Et cela, bon, pourquoi c'est mal pris? Pourquoi c'est pas suivi, ces actions-là?
C'est très intéressant de voir, par exemple, les problèmes qu'ils ont eu à Gerstein au moment de l'occupation et les problèmes que vous ressentez maintenant. Je pense que finalement, on retrouve les mêmes problèmes 2 ans après. Donc, c'est à mon avis encore un moyen qui est toujours d'actualité. Seulement, bon, ben, il faut l'actualiser, c'est certain. Et c'est un moyen intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet certainement de tenir en haleine les gens un certain temps, et il permet de tenir jusqu'à une certaine phase critique. Hein, je veux dire par là que pour l'instant, de toute manière, les pouvoirs publics, pour ne pas dire les élus, ont tout intérêt à ce que la situation pourrisse. Hein, chez vous, c'est ce qu'on a ressenti chez nous. Mais il viendra un moment où vraiment il faudra que quelqu'un cède. Hein, et c'est justement que c'est là que les occupants doivent vraiment tenir le pli en main pour tenir le plus longtemps, même si la France est plus on tient jusqu'au